RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Vous écoutez
RMC.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindir.
Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches minuit, on est ensemble pendant une heure. Salut Mundir.
Salut mon grand stratégaire. Je vais te la placer celle-là, j'ai suivi la saison 1 de Goldorak. Je me suis retenu.
Tu t'es remis dedans pour les enfants?
Ouais, j'ai fait ça ma fille.
J'ai fait ça aussi quand il était petit le mien, je l'avais remis, j'avais acheté tous les DVD. On s'est fait ça ensemble, il a pas lâché.
On commence dans une ambiance Goldorak, ça promet quand même. Non bah écoute, je vais très bien, parce que tu sais pourquoi hein.
Non. Ah oui, parce que tu pars dans
le bientôt pour aller chercher mon bracelet, bien évidemment.
Oui, reviens pas sans bracelet, sinon l'émission s'arrête.
Ah ouais.
Dire, on a parlé avec les producteurs, avec tout le monde.
Si je prends le bracelet, l'émission s'arrête?
Non. Non, le contraire.
Ah d'accord, ok.
Le contraire. D'accord. Le programme, dans un instant,
oui.
Évidemment, comme tous les
dimanches,
en ce moment, on est obligé d'aller à Vegas, puisque tout se passe là-bas.
Ah oui.
Et Greg Chauchon sera avec nous pour un bilan mi-parcours avant les étapes de montagne.
Ouais.
Là, on termine les étapes de plaine, même s'il y a quand même eu de sacrés beaux tournois déjà.
Et oui,
on va faire un premier bilan. Et je l'ai eu, Greg, cette semaine, il m'a dit une petite mauvaise nouvelle pour toi.
Comment ça?
Mais on va voir ça dans un instant et il va t'en parler. En studio, sinon, nous avons Igor Gottesman qui est avec nous.
Oui.
Je crois qu'il revient de Vegas.
Ouais, c'est vrai.
Mais
il revient quand même.
Il est arrivé quand à Roissy, Charles de Gaulle?
Il y a une semaine.
Décalage horaire digéré.
Ça y est.
Résultat dur, en poche.
Quoi?
Il y a eu un peu de coffrage.
Ah ouais, il y a eu 3 lettres, ITM on appelle ça. Ouais, j'ai fait un petit ITM, mais ouais, non, globalement c'était pas très fructueux comme séjour.
Ah. Alors Igor Gottesman est réalisateur, acteur aussi,
bien sûr.
Mais connu pour ses grands succès, notamment Five. Ça date de 2016 déjà ça.
Ouais.
Je me suis battu avec mes enfants pour pas qu'ils regardent.
Ah ouais.
Il faut un. C'est l'âge, quoi. Tu sais, il y a deux fois. Ah, ça dépend. Quand ils ont 12 ans.
Quand c'est sorti, c'était moins de 10 ans, il disait.
Ah oui?
Interdit au moins de 10 ans.
Ils disaient moins de 10.
Ouais, mais ils sont développés, mais non, même à 10 ans.
Ouais, mais bon, il y a 2-3 scènes, quand je voyais qu'ils regardaient, je faisais.
Ouais, c'est ok, je crois.
Ouais, c'est ok. Moi, toi, ça t'arrange, quoi. En tant que parent, il y a des scènes, ça s'arrange pas trop. Hein. Arnaud Pérol est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour.
Alors, Arnaud, tu es là parce que cette semaine, on s'est régalé de. Je lis toujours Live Poker vraiment quand ça sort. Là, j'avais un peu à la bourre parce que il y a l'euro et je suis pris par l'euro en ce moment. Et j'ai lu ton article où tu appelles l'oseille à venir. Je résume comme ça, à venir encore plus dans le poker. Tu vas nous raconter ça parce que l'article est assez fascinant. Tu nous raconteras ça tout à l'heure. Et puis il y aura l'actu. Fausto, journaliste Winamax en direct de Vegas pour un petit bilan chiffré des résultats.
Ouais.
Et Vegas, on y va tout de suite. Greg Chauchon est avec nous. Salut Greg.
Salut à tous. Comment ça va?
Salut patron.
Ça va?
Bonjour.
Ça va et vous?
On est bien. Bilan mi-parcours. C'est pour ça qu'on te voulait avec nous. Déjà, on est déjà à mi-parcours. Quand même.
Ça va vite. Le principe des World Series, c'est qu'on n'a pas le temps, on voit pas le temps passer tous les jours un nouveau tournoi, tous les week-ends un gros événement, mais pour le moment hyper positif. Ouais, des beaux résultats, des beaux chiffres et puis des beaux vainqueurs. Donc non, jusqu'ici tout va bien.
C'est quoi un moche vainqueur?
T'as raison.
T'as mis un petit peu tout de suite la question piège que j'ai placée immédiatement. Ouais.
Bah oui, je peux pas figer le boss, c'est pas vrai.
Mundir et Jérémy vont pas tarder à arriver. Tout est prêt pour eux, le tapis rouge pour l'arrivée du futur consacré Mundir et son bracelet. Greg, t'as tout préparé?
Tapis rouge, je pense que Paris, tout est en rouge.
Est prêt. La boutique est prête.
Alors justement, c'était ça la mauvaise nouvelle qu'il fallait que tu lui annonces. Il paraît que t'es en rupture de stock sur tellement de produits, il va être un peu emmerdé.
C'est-à-dire que Igor est passé, et il reste plus grand-chose.
Ah, c'est un scandale.
Voilà, c'était ça.
C'est vrai qu'on a fait le petit passage par la boutique WSOP.
Ouais. T'as pris le caddie à droite ou pas?
On a pris quelques goodies, mais il y a rien de fou non plus.
Ah d'accord, non déconne pas Greg. Quels ont été les plus gros tournois, ceux, je sais pas si tu peux encore avec ton expérience être surpris par la machine WSOP, Greg, mais si tu dois mettre 2-3 choses en avant.
Ouais, bien sûr le Gladiator, plus de 20 000 joueurs, alors après on s'habitue donc ça paraît plus trop bizarre, mais c'est quand même des chiffres incroyables. Le Mystery évidemment, il y a eu plus de 18 000 inscrits aussi. Et puis le week-end dernier, on avait le Monster Stack, 8700 joueurs, c'est quand même énorme pour un $1,500. Et puis le Senior ce week-end là, qui est en cours et 8000 joueurs quand même pour un Senior. Donc C'est des chiffres énormes. Et puis
le senior, c'est à partir de quel âge?
50 balles. Ouais.
50 ans, le senior.
Je peux le faire. Franchement, c'est quoi ça? Tu imagines ce que tu me mets là dans la tronche, là, senior à 50 ans? Ça veut dire que. Enfin, je suis pas senior.
Mais en plus, tu vas paraître agressif là-bas, toi. C'est une phrase. Ouais.
Très agro, le Scandi.
Et là, on a eu un joueur, le joueur le plus âgé, oui. ITM, 94 ans quand même.
Non.
Dans le senior.
Ouais. Un américain, j'imagine.
Ouais, ouais, on lui a demandé le secret de sa longévité. Il a dit le Jack Daniel.
Forcément, conseil pour tout le monde.
Donc, on est en présence d'un Texan, c'est ça? C'était un Texan?
Ouais, c'est ça.
Ouais, bah voilà, normal. Ouais, bah écoute, un Texan, très bien. 94
non,
ans.
Et puis les aéroleurs. Et puis non, on a eu surtout le bracelet, le 11e de Phil Ivey, qui a fait pas mal de bruit.
Mais pareil que lui, ça
et
lui
puis,
a pas. Ça lui a pas.
Il y a quelques jours, 4e.
Phil Ivey, pareil que, il n'était pas si expressif que ça.
Bah, je l'ai trouvé plutôt plus souriant que d'habitude.
Ah, d'accord. Mais... C'était en quoi, Phil Ivey? Just to Seven, un peu weirdo.
Discret,
ouais,
Just
to Seven.
Ouais, il est plutôt discret et là, non, il était plutôt content. Il a dit qu'il revenait juste pour jouer les World Series, qu'il était un peu retiré des tournois de poker, que c'était vraiment le cash game et puis les World Series. Je crois pas que l'argent, ça lui a fait un gros effet le gain. Par contre, le 11e bracelet, ouais, ça le met en numéro 2 et donc voilà, il marquait le coup quoi.
C'est toujours important pour les WSOP d'avoir et à la fois des légendes du poker comme ça qui entretiennent. Justement leur image, l'image des championnats du monde et en même temps les vedettes qui peuvent venir pour l'image de ces tournois, c'est toujours ce que vous attendez.
Ouais, c'est ça, c'est l'équilibre entre les stars qui voilà les joueurs qui collectionnent les bracelets, Scott Skiver qui a déjà gagné 2 bracelets cette année, tu vois, c'est des trucs quand même quand on dit c'est difficile de gagner des bracelets, joueur qui arrive à en gagner 2 d'affilée, Phil Ivey le 11e bracelet. Comme tu dis, les joueurs un peu connus, on avait par exemple le commentateur de l'UFC qui était en table finale du High Roller. C'est toujours des trucs sympas. Et puis à la fois, on a des belles histoires, les joueurs qui veulent un peu de voilà anonymes, comme vous avez reçu le Français la semaine dernière, qui arrive et qui gagne.
Bruce Buffer, il a fait table finale.
Voilà, ouais, finale. Les World Series, c'est un petit peu de tout ça.
Ok, je ne sais pas. Mmh. Ouais, il a pris un sacré chiffre. Hein. Je crois mieux que l'UFC même. Pour le coup, ah ouais.
Le Bruce Buffer, ouais.
Ouais, j'ai vu que vous l'interviewez, mais j'avais pas vu qu'il avait fait un résultat. Ouais, il a pris
Il a fait 8e, il nous a fait le Shuffle Open Deal en mode UFC, c'était sympa. C'est des petits détails qui font parler un petit peu du poker en dehors des joueurs habituels et c'est ce qu'on recherche, tu vois.
Greg,
pour ça, on veut des célébrités comme Igor Gottesman qui vient de jouer les WSOP, c'est ça que les.
Ah, surtout ce qu'on disait, faut faire des projets fiction là-dessus maintenant, sur le poker.
Oula. Alors ça, là, Igor, là, on va tomber dans quelque chose qui me plaît et en même temps m'agace, parce que ça fait tellement longtemps que dans cette émission, on dit qu'on n'en peut plus, que personne ne se penche sur le sujet, que je vais finir par ne plus jamais y croire et arrêter d'y croire, parce qu'il n'y a rien qui se fait.
C'est vrai que ça fait un moment, il y a assez peu de choses, mais pour le coup, le fait que cet essor de la série, qu'on puisse traiter les choses maintenant sur des périodes plus longues avec la série... je pense que ça peut totalement coller avec l'univers du poker et le rise and fall qui est inhérent au poker.
Écoute Igor, j'ai 2 livres à te proposer qui seront des bonnes bases de scénario. C'est Le Flambeur de Las Vegas. Le titre est mal traduit, mais c'est... comment il s'appelle, Billy Walters, là.
Okay.
Extraordinaire. Et Le Plus Gros Jeu, qui est un livre qui date des années 80, comme ça, ta version moderne ancienne. Si avec ça, dans ces 2 livres-là, tu trouves pas 10 épisodes, là, j'y comprends plus rien. Ah, okay. C'est fantastique. C'est tout ce qu'on aime. C'est de la légende, c'est du roman, c'est des personnages, c'est tout quoi. C'est les WSOP en mode US, c'est le poker, c'est la vie, c'est les drames, le rire. Il y a tout dans ces 2 bouquins.
Ouais, il faut arriver à moderniser le truc. Le poker a tellement changé en 25 ans.
Il y a tout dans ces bouquins.
Et les joueurs aussi, le génotype des joueurs.
Absolument.
Du coup, je pense qu'il y a quelque chose à raconter, mais.
Une évolution.
Je pense que c'est pas si évident. Si c'est pas là depuis un moment, c'est que il y a un endroit où c'est pas facile.
Mais
moi, j'ai essayé aussi
facile.
De développer des choses, par exemple, sur le e-sport.
Ouais.
Pour le moment, on n'a pas réussi à craquer le truc, donc c'est pas si évident que ça, mais.
Igor, je vais te dire où est-ce que ça bloque. C'est pas sur ceux qui auraient les idées pour l'écrire et tout, parce que très franchement, il y a tellement de matière. C'est exactement comme les grands réalisateurs qui s'appuient sur des romans qui ont marché, qui les ont adaptés quand on fait des films. C'est pas cet endroit-là que ça va bloquer. C'est pas des gens comme toi avec ton talent derrière une caméra ou en écriture avec une équipe. C'est juste de convaincre les personnes qui sont au poste pour
les plateformes.
En gros, les producteurs et les diffuseurs. C'est là que ça bloque et c'est là qu'en fait, tant qu'on croisera pas la route de quelqu'un qui sait ce que c'est, qui connaît cet univers-là, c'est là que ça va être compliqué. Et visiblement, en poste, à ces postes-là, il n'y a pas de gens qui sont pas convaincus, mais qui connaissent cet univers.
Ouais, ouais, après, avec si le jeu de la dame, etc., ça a ouvert des choses aussi sur le fait qu'on puisse faire ouais, de la série sur un jeu.
On en a souvent
je pense qu'il y a un truc un peu sulfureux du poker qui doit pouvoir attirer, mais qui aussi a rebuté un moment les diffuseurs, peut-être.
Enfin, il y a des films, il y a des films sur la mafia qui ont été faits, ça peut rebuter aussi. Il y a des
non,
films
mais je suis d'accord, c'est pour ça
y a
que
sur la boxe,
il y a même une série sur les casinos qui s'appelait Las Vegas, qui cartonnait bien, une
saison de Luck avec Dustin Hoffman qui traitait des courses du poker et qui était génial.
En fait, je vois pas ce qui peut rebuter 21. En fait. Moi, je pense que c'est uniquement au poste de décision.
Non, je dis qu'il y a peut-être rebuté un moment, mais en tout cas, moi, je vois l'endroit où il y a de toute façon de la dramaturgie dans le poker.
Évidemment.
De manière inhérente.
De toute façon, c'est la même chose avec la diffusion des tournois. Et d'ailleurs, j'avais envie de poser la question à Greg pour bien qu'il nous dise où est-ce que c'est diffusé aux États-Unis le poker. Mais en France, j'essaye tous les ans, au poste à responsabilité dans les chaînes. Tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui connaît cet univers et qui sait à quel point c'est intéressant de le raconter, même les tournois. Hein,
il y a eu Canal quand même. Il y a eu Canal.
Oui, mais ça date. Bah c'est Breuel qui a porté le truc tout seul.
Bien sûr.
Mais
parce qu'il avait un nom et qu'il avait aussi le titre.
Mais aujourd'hui, le titre. Les WSOP en France, ça n'est pas diffusé. Ça n'est pas diffusé. Et c'est diffusé où aux États-Unis, WSOP, Greg?
ESPN. Sur CBS Sport, mais bon, à demi-mot, franchement, en fait, la télé ne s'y prête plus vraiment. On sait que voilà, c'est beaucoup les plateformes et puis le internet quoi. Donc il y a des chiffres énormes sur des streams de poker.
Là, quand vous diffusez, voilà, Greg, c'est quoi? Il y a un différé pour que les gens voient les mains des joueurs?
Oui, c'est clair. Alors le problème du poker c'est le côté direct. Main event par exemple, le souci qu'on a eu historiquement, c'est que le main event il dure des semaines et la table finale elle dure des heures. Et que historiquement, quand on était sur ESPN, par exemple, on finissait à 4h du matin. Et t'imagines bien qu'ESPN, à un moment, le prime time, voilà, tu vois. Et donc, on était relégué à un moment en troisième partie soirée. C'était compliqué. Donc après, il y a le côté, tu peux monter, tu vois, l'événement, faire une émission montée. Mais t'as plus le côté direct à ce moment-là. Et tout le monde, quoi. On va dire.
Mais je pense que c'est un faux problème. Mais Greg, c'est un faux problème. Connaître le résultat au poker, quand tu regardes dans la tête d'un pro, quand tu regardais à l'époque les résultats, oui, on connaissait le vainqueur, mais ce qui est passionnant au poker, c'est comment tu as réussi à aller au résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire que tu as racontée? Le film que tu as suivi? C'est ça. Moi, savoir que Mundia a gagné le bracelet, machin, ok, on a bu le champagne, on a fait la fête. Mais revoir, même une semaine après, même un mois après, le montage, les mains, qu'est-ce qui s'est passé à la table là, et qu'il y a eu un commentateur pour me raconter, à ce moment-là, ils étaient à 50 left, à ce moment-là, ils étaient à 30 left, il avait tant de blindes, il s'est passé ça, une réaction à l'intérieur du programme sur comment tu te sentais,
mais tu crées une histoire.
C'est passionnant. Mais les gens ne veulent pas l'entendre. Mais les chaînes de télé, c'est parce qu'elles ne connaissent pas. Si moi je suis patron d'une chaîne de télé, je peux t'assurer que ça va m'intéresser. Je vais le mettre et je suis sûr que ça marchera.
Non mais Daniel,
ça a plus un profil de Netflix pour le coup, ce dont tu parles, je trouve, qu'un profil de chaîne de télé.
Écoute, moi j'ai fait quelques rendez-vous pour être honnête avec vous, j'en parle toujours off, mais là je vais le dire parce que bien évidemment c'est signé compagnie. Moi j'ai signé un contrat de développement avec les numéro 1 de la fiction qui est Banijay Fiction, d'accord. Sur les rendez-vous qu'on a eu avec les plateformes, la plateforme nous disait à chaque fois qui est le réalisateur. C'est-à-dire qu'ils aimaient le projet et ils nous demandaient qui est le réalisateur. Donc on dit, bah pour l'instant, on entraîne avec les réalisateurs, dire, bah quand vous avez le réalisateur, vous venez nous voir. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est aussi ça. Il y a énormément de portes qui se ferment et que depuis Randers, j'ai pas vu moi une série sur le poker ou bien un film sur le poker qui est actuel et qui fait bander. Je suis désolé. Et effectivement, il faut un nom. Il faut des noms, des mecs comme Igor, des mecs aussi tes confrères. S'il y a pas de nom, il y a rien. Il y a Wellou. Il y a, comme on dit chez nous, il y a Zginga. Voilà, donc c'est comme ça.
Bon, revenons au WSOP.
Oui, revenons-y.
Oui. Qu'est-ce qu'on disait qu'on était à mi-parcours? Bon, évidemment, il y a le main va être le gros morceau qui va arriver, mais en dehors de ça, qu'est-ce que nous donnes comme rendez-vous?
On a 250 000 dollars quand même qui démarre demain.
Oui.
Et puis après, on se rapproche du main event. On a les plus de joueurs internationaux qui vont arriver, quelques célébrités.
Le 400 aussi qui va être monstrueux. Le gladiateur.
Oui, oui, oui.
C'est ça?
Ouais, mais de toute façon, tous les week-ends, on sait. Hein, donc,
ouais, je vais le faire, sûr. C'est quoi le plus cher? Il est passé déjà
250.
Le 250, là.
Non, le 250 000, il démarre là.
Il démarre là? Il y a combien de joueurs?
Ouais.
60,
hein, c'est demain, donc on n'a pas encore le chiffre.
Mais grosso modo, t'attends combien de joueurs sur un tournoi pareil?
L'année dernière, on a eu à peu près 70.
Ouais.
Je pense que ça peut faire un peu plus.
C'est marrant que pour le 250, vous n'ayez pas attendu Mundia, parce que cette année, il avait la banquerolle.
Non, mais excuse-moi, entre il n'y a plus de fringues et je ne peux pas faire le 250K, je pensais que vous étiez des amis, les mecs. Hein. Sérieux?
Il n'y a personne pour te financer.
C'est des amis, ça a 10 ans, putain.
Il n'y a personne pour te financer.
Il reste à 50 000 à la fin Mundia, quand même.
250K?
T'inquiète pas, Arnaud a des idées pour les financements.
On va rentrer sur un sujet qui va être plutôt sympa. Mais moi, ma question, Greg, est-ce que aujourd'hui, ouais, l'influence, là, à mi-parcours, est-ce qu'elle est plus forte que celle de l'année dernière? Si on.
Tu veux dire
à mi-parcours comme l'année dernière, par exemple. Exactement.
On va dire, on est vraiment sur les mêmes bases. Il y a quelques tournois qui sont en hausse, quelques tournois qui sont en baisse. Maintenant, franchement, le résultat final, ça va être le main. Malheureusement, pour nous, c'est toujours le chiffre que les gens retiennent.
C'est la valeur.
Et c'est ce que je te disais. Ouais. Voilà, il y a un tournoi tous les week-ends, qu'il y ait 8500, 8200, 8900 ou 9300, ça va pas changer grand-chose en fait pour nous. Même dans l'esprit des gens, on va dire, ils vont se rappeler peut-être du vainqueur, et puis une semaine après, on a oublié le chiffre qui va compter, c'est celui du main. Hein.
Et c'est un peu le main l'année dernière, c'était combien exactement?
10 043 joueurs uniques, parce que c'est un freeze-out, évidemment, le main event. Ouais.
Greg, j'allais te dire au revoir, mais si tu as 5 minutes de plus après la pub, est-ce que tu as lu l'article d'Arnaud?
Oui, je lis toujours les articles d'Arnaud.
Et est-ce que ça t'intéresse d'en parler avec nous?
Oui, avec plaisir. Bien
on
sûr.
On fait la pub, on revient dans un instant parce que j'ai pensé à ça. C'est-à-dire confronter le papier d'Arnaud avec un des boss de l'industrie du poker, je pense que ça peut être intéressant. À tout de suite, on revient.
Jusqu'à 1h, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mundir.
Deuxième partie du RMC Poker Show. Greg Chauchon est donc resté avec nous, le patron des WSOP. Les championnats du monde à Vegas, on est à mi-parcours maintenant. Et le plus gros reste à venir, à savoir l'arrivée de Mundir là-bas. Igor Gottesman est avec nous en studio, réalisateur de Five, notamment Family Business, Fiasco, qui lui revient de Vegas, grand passionné de poker. Il est allé jouer avec combien d'ITM? 1, 2, 3?
Non, j'ai fait.
Combien de tournois déjà?
J'ai fait 3-4 tournois. J'ai fait un ITM.
Et la bande, là, tes acteurs qu'on voit souvent dans tes films, ça joue un peu au poker?
Ça joue un peu entre nous. Ça joue pas, on sait.
Non, Pierre, ça joue entre nous, vu ton expérience, ça veut dire je les rase un peu.
Je les rase un peu. Non. Pierre, non, pas du tout. Pierre, pas du tout son truc. Ouais. Non, on joue un peu avec François, ouais. François, il aime bien. Il regarde dans la tête d'impro, on en parle et tout.
Ah, énorme. Ah, bah, il va falloir qu'il vienne dans le RMC Poker Show, alors. Très bien.
Ça, c'est à vous de le convaincre, hein, ça. C'est...
Mais on va le faire. Arnaud.
Oui.
Dans le dernier numéro de Live Poker, tu nous as proposé un article. Le titre, c'était Fini de rire.
Ouais, alors c'est je suis. Ouais, c'est.
C'est un beau titre, moi je trouve.
Comment résumer ton papier? En gros, tu veux qu'on augmente et qu'on arrive à des buying à peu près stratosphériques pour qu'on s'intéresse encore plus au poker ou pour que ça ressemble aux grandes manifestations sportives comme la Formule 1, un championnat du monde de foot, la Ligue des Champions. Allez, raconte-moi un petit peu ce papier. Je pense, Igor, je sais pas, tu l'as lu ce papier?
Je l'ai pas lu.
C'est fascinant.
Il est arrogant.
Alors,
je pars de ma position d'être spectateur. Donc, j'adore. Je fais partie des. Mais on est quelques-uns comme ça. Regardez les streams. L'ATF à 4h du matin, je suis capable de la regarder. Mais pourquoi?
Comme avec Tyson.
Parce que je me suis retrouvé à un moment donné, 4 jours avant, à la table de Fedor Holtz, qui faisait un tournoi très bas de gamme pour lui, mais très haut de gamme pour nous. Et que t'es content de voir le mec ou que t'as un de tes copains qui est en TF d'un EPT ou d'un truc. C'est un sport de communauté. Ce qui me manque, moi, c'est d'allumer la télé ou l'ordi et de voir une TF d'un tournoi avec un buy-in d'un milliard d'euros ou d'un milliard de dollars. Ça, le truc qui fait péter les plombs. C'est ça.
Un million, ça va suffisant déjà?
Non. C'est quand tu vois. Non, mais en fait, tu compares ça à toutes les grandes manifestations sportives. Genre. Bon, je vais pas parler de la Ligue des Champions parce que franchement, j'ai rien à en dire quand je suis face à quelqu'un comme toi, si ce n'est que quand tu vois les moyens que les clubs consacrent pour essayer d'aller attraper la queue du Mickey.
Ah, on n'est pas au milliard, on va dire les budgets des gros clubs en Europe, on est entre 500 et 800 millions.
Oui, le budget d'un club.
D'un club.
Alors maintenant, tu cumules le budget de tous les clubs qui veulent la gagner.
Ouais.
On est à beaucoup plus.
C'est-à-dire ce qui est mis à disposition pour gagner le titre.
Bah oui.
D'accord.
Alors, il y a les moyens qui sont consacrés. L'intérêt du poker, c'est qu'il faut une table, des cartes, un dealer, des jetons, et c'est techniquement pas très cher à monter. Alors, je dis ça,
Il y a Grégory qui nous écoute, il va me dire, attends, je vais te sortir, moi, le budget de production des WSOP, on va reparler. Bon, c'est de l'événementiel, je connais un peu. Ce que je veux juste dire, c'est que ce qui fait péter les plombs, c'est l'enjeu. C'est le coût à 50 millions de dollars. Là, tu feras les prime time. C'est-à-dire le coût à 50 millions de dollars. La décision à 50 millions de dollars, c'est ça qui fera passer le...
C'est quoi l'idée? C'est comme quand on regardait WBT à l'époque, le fait que quand il y avait toute la masse de billets sur la table, c'était fascinant.
Oui, parce que, bah,
c'est ça. Ce truc-là à regarder.
Parce qu'on n'y comprenait rien et que moi, les premiers trucs de Bruel, Canal+, je confondais les jetons et je pensais que les mecs avaient vraiment... ils avaient vraiment 100 millions de dollars devant eux. C'est, évidemment, faut péter ce plafond-là. Et donc, ça deviendra un sport d'industrie parce que les annonceurs, tu vois, tu me parlais des 24 heures du Mans, tu disais, t'as vu le nombre d'opérations de RP qui sont développées, les annonceurs viennent. Ben oui, parce que la compète, elle explose, elle réunit 15 des plus grands constructeurs mondiaux, mais qui dépensent, ils vont jamais l'avouer. Mais je serais pas étonné que c'est entre 300, 400, 500 millions d'euros. Par constructeur de réunis pour aller gagner cette course.
Alors imagine, en essayant d'être concret, on va partir sur un buy-in à 1 million.
Ouais.
À 1 million,
on est
trois joueurs ici, ouais. Donc il faut qu'on se fasse financer. Il faut que des entreprises croient en nous. On va dire que moi je suis un joueur top niveau, Mundir et Igor également.
Non, pas forcément.
On est financé par des fonds,
ouais.
Des gens qui vont, donc on devient des personnalités nous-mêmes.
Exactement.
On devient des gens qui vont être suivis par des gens sur les réseaux. On va devenir des stars du poker.
Ah, ouais.
Voilà. Et on va aller à une table où il faudrait combien de joueurs pour que ça devienne vraiment intéressant?
Ah bah en fait,
il faudrait au moins
un tournoi,
20, 30, 40 joueurs.
Ouais, ou disons tu peux monter à 100. Tu peux monter à 100 au max du max, mais en sachant que ça fera venir l'argent de l'industrie, des annonceurs qui verront pour eux la capacité de crever l'écran, d'attirer l'attention, d'être associé à quelque chose qui fait péter les plombs. Enfin, moi je prenais l'exemple de Cyprien Sarrazin dans la descente de Kitzbühel. Pour ceux d'entre vous qui ont mis déjà deux pieds sur les skis, c'est ce que font les mecs est démentiel. Ils risquent leur peau. C'est ça que les gens veulent voir. Donc, l'idée, c'est pas tellement de risquer sa peau au poker. C'est déjà, en revanche, que des entreprises mobilisent des moyens énormes pour donc préparer des joueurs. C'est pas le tout d'être une personnalité. Mais il faut dire les choses comme elles sont. À part Wina en France, qui a un vrai travail d'accompagnement de ces joueurs pros. La notion de joueurs pros au poker, c'est des mecs livrés à eux-mêmes, qui ont été meilleurs que les autres, qui sont les patrons de PME et qui bricolent comme ils peuvent, comme moi je suis un patron de PME. On monte la prod, on essaye de financer le truc. Bon, mais ça fait rêver personne. On est content quand ça marche.
Et tu crois que des entreprises peuvent être intéressées par ça?
Mais une entreprise, à partir du moment où elle voit qu'il se passe un truc, qui saisit d'effroi ou de stupeur ou tu prends l'enjeu parce que t'as un journaliste qui aura fait son boulot qui dit regardez les images qu'on a reçues, c'est la finale, alors le triton, la table finale du triton, où là il y a un joueur qui prend une décision à 50 millions d'euros, si le rédac chef se dit ça passe, les gens vont s'arrêter, vont regarder, vont dire mais c'est quoi cette folie.
Après il faut trouver un cadre pour ça.
Ah bah oui,
alors après un cadre, tu mets ça dans un cadre quoi, de championnat du monde.
Absolument, il faut professionnaliser le truc. En fait, les WSOP, c'est extraordinaire, les mecs ils ont fait le taf, ils ont rendu possible l'accès au rêve de tout le monde, c'est la magie. C'est tout le monde peut participer à ce championnat et un jour peut rêver de gagner 8 ou 10 millions de dollars et battre 10 000 joueurs, 20
000
joueurs.
Mais prenons,
ça, exemple, c'est fait.
Excuse-moi, vraiment, Arnaud, mais il y a déjà eu, par exemple, Guy Lalliberté que tout le monde connaît, ouais. D'accord, donc propriétaire du Grand Cirque.
Oui, c'était le One Million.
One Drop, qui a fait au WSOP. Arrête-moi si je me trompe, Greg, bien évidemment. Et il avait fait à Monaco où ils avaient invité qui à 1 million de dollars? Vas-y. Un chanteur qui s'appelait Garou.
Ouais, mais non, mais ça, en fait, c'est pas bon.
Ça a rien donné du
non,
tout.
Non, mais c'est pas la même chose.
Mais parce que c'est pas bon. C'est, je veux dire, ça fera rêver personne. Garou, il va gagner à la roulette. Tout le monde est content pour lui. S'il peut être invité à un événement comme celui-là.
Non, ce qu'on voit, c'est un professionnel. Un gars qui joue, tu sens que le gars, il est investi à fond.
Le mec, ils sont préparés à fond techniquement, mais aussi psychologiquement, physiquement.
Et tu vas le raconter, ça.
Voilà.
Tu raconteras que le gars s'est préparé, qu'il a une histoire. Tu vas vendre l'acteur qui le jouera.
Dans la tête d'un gros. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu impalpable pour les gens. C'est-à-dire, effectivement, tu peux montrer le mec faire du yoga, faire de la méditation, faire du sport, se préparer, anticiper, connaître l'ICM, ces trucs, tout, bosser ça. Mais après, il y a un truc assez simple dans le poker, c'est qu'un coup, tu as deux cartes, tu as un mec en face qui a deux cartes, tu sais pas ce qu'il a et tu fais des suppositions et tu es plus ou moins inspiré. Mais,
ouais.
Et c'est vrai, quand on voit, par exemple, c'est peut-être pour ça que les gens n'arrivent pas à être des stars, parce qu'il y a un truc un peu impalpable. Quand tu vois Mbappé jouer au foot, et que toi, tu prends un ballon, tu vois que toi, ça ressemble pas à ça. Quand tu joues au poker, et que tout d'un coup, tu fais un hero call une fois de temps en temps, ou tu prends une bonne décision, ouais, t'as l'impression d'être un pro, tu t'identifies.
Igor, il y a certaines mains, quand j'ai vu la semaine dernière la main entre l'Espagnol Galiana et Yo Viral, franchement, cette main-là, tu regardes.
Je suis d'accord, mais ça fait partie, c'est y a une des aussi. Plus grosses mains. Non, et là, je vois, regarde, Phil Ivey sur Instagram, il a 186 000 followers.
Oui, oui.
Voilà, c'est
ouais, mais
c'est Kylian Mbappé, il a 110 millions de followers.
Pourquoi,
là, on est à genre à des centaines de milliers de kilomètres, alors que Phil Ivey, Negreanu, est une des plus grosses stars. Il a 380 000 followers. C'est une toute petite communauté.
Ce sport, c'est pas l'industrie ne s'est pas emparée de ce sport.
Totalement.
Moi, c'est de ça dont je parle.
Ouais.
C'est exactement, si on parlait de la Silicon Valley, pourquoi est-ce qu'on parle des startups de la Silicon Valley? Parce qu'il y a des milliards et des milliards de dollars à leur disposition pour investir sur des projets pour des mecs qui ont des visions planétaires. Il faut voir le truc comme ça, on est un peu trop conservateur. Le sport aujourd'hui, c'est être sport mental. Ce que tu dis sur le poker, en fait, quand tu creuses, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est ultra technique, ultra exigeant et que bien sûr, tu as toujours le facteur chance. Mais qu'en fait, ça mérite vraiment d'être sublimé. Peut-être de manière artificielle, genre on va pas lancer un débat philosophique sur est-ce qu'on a raison d'avoir un intérêt pareil pour le foot et tout ça. C'est juste que d'un point de vue sport business,
je suis d'accord.
Il y a un plafond à crever là-dessus.
Mais c'est la même question qu'on se pose pour la fiction. Tout à l'heure, on disait pourquoi la fiction ça sort pas, pourquoi on n'arrive pas à raconter des histoires sur le poker, parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, d'intérieur, de très cérébral. D'ailleurs, la seule émission qu'on regarde vraiment, c'est dans la tête d'un pro avec une voix off qui te raconte. Donc c'est aussi un truc où c'est
ça. J'aimerais l'avis de Greg sur ton idée, Arnaud. Il a lu l'article et qu'est-ce que tu penses de ça?
Qu'est-ce qu'il dit le Grégo là-dessus?
Non, je suis d'accord sur le côté chiffre, évidemment. C'est-à-dire que la vidéo la plus vue de l'histoire du poker, c'est le bad beat, les as contre les as pour dans le tournoi à 1 million.
Ah oui.
Et il y a deux éléments là-dedans, c'est évidemment le million, c'est le buy-in, et il y a le côté drame en fait. Le fait de perdre avec deux as contre deux as, c'est très improbable. Et donc voilà, la combinaison de ces deux choses font que, donc je suis d'accord avec Arnaud sur le fait que les gros chiffres, plus les chiffres sont gros, plus on fait parler. On a notamment été critiqué l'année dernière quand on a voulu un peu dénaturer le prize pool du main event pour que le premier prix soit le plus gros de l'histoire. L'objectif, c'était justement d'avoir des retours médiatiques, tu vois, et ce qu'on a eu en fait, parce que c'était le plus gros prix de l'histoire du poker et
comment
même
ça,
de certaines compétitions.
Pourquoi tu dis qu'il a été, enfin vous l'avez changé?
Parce qu'on n'a pas respecté le pourcentage que devait récupérer le premier, pour battre le record de 2006 qui était de 12 millions au premier. Donc on a fait 12 millions 100 000 au premier en fait.
D'accord, j'ai compris.
Et en fait, ça nous a permis d'avoir un buzz autour de cette première place, quoi, et du prix. Donc oui, le chiffre est important, tu vois. Mais d'un autre côté, je suis aussi, pour arriver à des tels montants dont Arnaud parle, je pense que les annonceurs ou les investisseurs potentiels, ce qu'ils attendent, c'est un retour.
Exactement.
Et donc là, on arrive là sur le sujet de Igor, c'est-à-dire que si t'as une plateforme ou quelqu'un ou quelque chose de masse et que t'arrives à toucher, on le voit bien avec les youtubeurs qui organisent des compétitions sportives ou ce genre de choses. À partir du moment où t'arrives à toucher la masse, c'est très facile de trouver du financement en fait. Donc c'est un peu un cercle.
C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est
faut le financement.
Tout le monde parle de poker. Tout le monde sait ce que c'est le poker quand tu parles à quelqu'un, même à des gens qui ne savent pas du tout, qui ne jouent pas du tout. Tu dis, ah, je joue au poker. Ah bon, tu joues au poker? Il y a toujours une fascination, mais c'est quoi, mais où, machin. Mais effectivement, les grandes stars du poker sont encore des gens très méconnus.
Ah oui.
Moi, j'hallucine de voir que Phil Ivey ou Daniel Negreanu ont même pas 1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Quoi. C'est complètement fou.
Et aussi parce que c'est une économie qui repose sur les buy-in des joueurs. Toujours pareil.
Ouais, bah
alors, ce qui est, c'est très bien, c'est très noble et c'est très sympa. Et moi, j'aime beaucoup. Enfin, je suis joueur. Bon, mais pour arriver à faire venir de l'argent de l'extérieur, il faut de l'extraordinaire. Il faut un truc qui pète les scores.
Quand tu prends les Tritons, par exemple, que j'ai vécu et que j'ai joué,
ça monte les marches.
Bah, justement, c'est-à-dire que t'arrives, il y a que des milliardaires chinois, d'accord, avec une infrastructure qui est juste exceptionnelle, avec les meilleurs croupiers au monde. Et
parce qu'on est toujours dans la même économie. L'argent vient des joueurs.
On est d'accord.
Si tu sélectionnes 50 mecs, les 50 Mbappé du poker, par exemple, et que tu les fais s'opposer entre eux, et que leur problème à eux, c'est pas de réunir l'argent pour jouer, mais qu'ils ont un contrat de joueur, et qu'ils ont évidemment un pourcentage de gains, et que
leur seule préoccupation, c'est la gagne et tout préparer pour ça. Et qu'autour d'eux, ils ont des équipes qui montent les financements et qui travaillent à exploiter des retombées, ça se met à ressembler au sport pro de niveau planétaire. Moi, c'est tout ce que je dis.
Moi, je trouve que c'est très intéressant. Je ne vois ça possible qu'aux États-Unis.
Sûrement.
Ou des entreprises aidées par des milliardaires qui connaissent le jeu et qui sont pas rebutées par l'oseille comme parfois en France on peut l'être, surtout quand on parle de poker. Ouais. Mais si mais les États-Unis
sont là-dedans
ou en Asie. Ouais,
Moi je pense que c'est un truc d'ampleur. Si Negreanu avait 100 millions d'abonnés, les marques l'auraient contacté, il aurait des sponsors collés partout. Je veux dire, c'est aussi parce que c'est un sport qui est un jeu qui est populaire mais qui n'a pas réussi à exploser encore.
Il y a aussi des marques qui ne veulent pas s'associer au poker.
Non, mais t'as raison.
Mais si tu partais, s'il y avait une série qui faisait que ça, déjà, ça aidait à rendre populaire
d'accord,
et que les noms,
passe par là
que
aussi.
Les noms dont tu parles étaient mis en avant parce qu'ils ont une histoire particulière, parce que quand tu racontes l'histoire des vieux champions, bon, toujours le même, Stuhlgaard ou des mecs comme ça, si ça pénètre un peu l'imaginaire collectif, là, tu vas dire, oh putain, les joueurs de poker, il y a des mecs comme ça, ou le gars, là, le Flambeur de Las Vegas, le super roman que j'ai lu récemment. Wow, putain, là, tu te dis, merde, c'est des gars qui ont eu des vies démentes, quoi.
De toute façon, je veux dire honnêtement, Arnaud, moi, dans le meilleur des mondes, bien évidemment, qu'un tournoi à 50 millions de dollars, bien sûr que ça va attirer des gens, ça va faire ultra rêver. Déjà, ça fait rêver un tournoi à 500 balles pour quelqu'un qui peut pas mettre 20 balles dans un tournoi. Mais je me dis que y a aussi les contraintes de l'ANJ. Que dirait l'ANJ, par exemple, sur des trucs comme ça? Que dirait le fisc ceux qui n'ont pas les problèmes des écuries d'automobiles et tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, toi, tu fais une pub dans le jeu.
Ouais.
Tu te chopes l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux. Tu te chopes l'Argel. Enfin, contrôle le truc.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, et moi, je préférerais que ce genre de compétition soit organisé dans un cadre réglementé et contrôlé, plutôt que dans une république bananière où alors là, tu contrôles rien du tout et ça partira en chips direct.
Okay.
Non, mais ça, c'est pas un sujet. La législation, elle est présente dans. Enfin, tout. Quiconque entreprend le sait. T'es cerné en permanence par la législation et les réglementations. Mmh. Et tu composes avec. Non, ce que je dis juste, c'est que, en fait, pour reprendre l'histoire des tritons, tant que ce sera. En fait, pour moi, le point de bascule pour trouver le point d'entrée, c'est le jour où le milliardaire chinois, il préfère miser sur Jimmy Guerrero. Il se dit, avec lui, je vais y arriver, je vais vibrer parce que je vais le voir jouer et je le respecte, plutôt que de vouloir jouer lui-même. Tant que ces mecs-là mettront l'argent sur la table pour jouer eux-mêmes, on passera pas le cap. Le jour où les mecs se disent, parce que ils ont des moyens considérables, les masses financières planétaires sont démentes. Donc en fait, même quand je parle d'un buy-in à 1 milliard, pour les joueurs de poker, les mecs, bon, de toute façon, c'est bon, l'autre, il a écrit son article, je fais la différence entre écrire et entreprendre. Mmh. Je suis pas en train de vous dire que je vais entreprendre pour le faire.
Oui, bien sûr.
Parce que évidemment, d'un point de vue réaliste, on est dans la fiction totale. Mais c'est intéressant de se projeter dans un monde où ça existerait, que t'es 50 ou 100 mecs, préparés, mais comme des athlètes de haut niveau, pour aller s'affronter dans l'arène. Et aujourd'hui, l'arène moderne, c'est une arène financière. Oui, c'est les jeux du cirque.
C'est sûr, ça fait les gens veulent voir. Fiction, mais c'est assez passionnant. Merci beaucoup, Arnaud, en tout cas, pour cet article. Moi, ça m'a beaucoup plu. Greg, merci beaucoup. On te laisse terminer ta journée.
Garde-moi quelques articles en XL. Vous m'avez mis la pression.
La prochaine fois que tu seras dans les RMC Poker Show, tu seras avec mes deux compagnons.
Enfin une belle parole.
Pour eux, évidemment, je suis tellement triste de ne pas venir.
Eh oui, t'embrasse, Greg. Dans les années paires, tu es rarement là.
Ouais, les années paires, c'est pas pour moi. Bon, je t'embrasse, Greg. À bientôt.
À bientôt.
Salut, boss. Bye bye. Au revoir. À jeudi.
Salut à tous.
On enchaîne direct à Vegas avec Fausto Moons, journaliste indépendant qui bosse pour Wina et qui est à Vegas. Et avec lui, on va rapidement faire un roundup des résultats.
T'es là dans l'accent, toi.
Hein. T'as vu ça, j'ai tout lâché. Là,
autant dans les vannes, t'es là, mais l'accent.
Salut Fausto.
Salut Fausto.
Salut Daniel, salut Moundir.
Salut Loulou.
C'est parti pour le roundup.
Allez, les Français. Les Français, il y en a un qui est avec nous en studio. Il revient de Vegas, il a fait un petit résultat. Tu l'as mis dans tes notes ou pas, Igor? Il fait partie de tes Français qui ont
quand même 167e, hein.
On va voir si t'étais dans ces Bristol.
C'est presque l'une des meilleures performances françaises de la semaine, puisque j'avoue que on est sur un Vegas un petit peu plat pour l'instant, quoi. Ça avait commencé avec un beau bracelet WSOP, mais c'est vrai que par rapport aux éditions précédentes, l'édition est très belle, il y a une super ambiance, des bons rails, des body prun, mais ça manque un peu de table finale
dernière,
et de bracelet français à mon goût.
On a eu le heads up incroyable de Yoviral, avec la 5e place dans le même tournoi de Romain Lewis, mais tu trouves que pour l'instant ça manque un peu de saveur?
Tout à fait. Romain Lewis, là, il est sur un run de fou depuis 3 mois. Il a fait une finale incroyable et ça se joue à un flip pour qu'il aille chercher le bracelet.
Asdam perd de 6.
Ouais, ça se joue à rien parfois. Mais c'est vrai que l'année, en fait, les grinders, j'ai l'impression, sont au rendez-vous. Là encore sur le Monster Stack, quand on regarde les quatre Français qui prennent, c'est des noms bien connus. Bon, cette fois, ça fait que 9e, j'ai envie de dire, mais c'était déjà magnifique ce qu'a fait Robin. Mais c'est vrai que les autres années,
Guillaume 9e, 114 000 $ dans le Monster Stack.
Super body prun et très bon gars par ailleurs. Mais c'est vrai que pour les autres tournois, je me souviens que les autres années, on avait pas mal de random, comme on appelle ces joueurs amateurs qu'on connaissait pas et qui se révèlent le temps d'à Vegas avec le one time de leur vie et qui se retrouvent en TF d'un tournoi de 3, 4, 5 000 joueurs sur les $600, les $800, les $500. Il y en avait à chaque fois 3, 4 par an sur les éditions précédentes. Et pour l'instant, on n'a pas encore ces
Il y a un Français qui a gagné un turbo là, non?
Oui, c'est le premier Français.
Oui, Thibaut Périssa, oui, c'est ça.
Ultra turbo. Ultra turbo.
Ah oui, mais ça, c'était au début.
Le super turbo.
Je suis à côté de la plaque, moi, mais oui.
Ouais. C'était en début de festival, il y a 2-3 semaines. Mm-hmm. Et on en voudrait plus des histoires comme ça. Et en plus, on est arrivé juste après sa victoire, donc on n'a même pas eu le temps de la vivre de notre propre jeu, celle-là. Les grinders sont là pour l'instant. On aimerait avoir plus de petits anonymes, qui nous fassent vivre de belles histoires. Mais bon, il y a encore des très beaux events qui arrivent. Et on espère que ce sera sur le Millimaker. Il y a aussi un 5K 6 Max là qui vient de démarrer, où on a pas mal de Français qui sont bien placés. Il y a Julien Sidbon qui a fait un D1 de ouf, qui doit être parmi les chip leaders. Là encore, c'est des joueurs connus, donc il y a encore des espoirs et il y aura certainement plein d'autres tables finales, mais on en demande un peu plus.
Fausto, tu parles de belle histoire et visiblement ton papa, Michel Mounz, Igor, tu sais que c'est l'auteur...
C'est pas mon père, hein, Michel.
Non, je sais bien, je sais, c'est le papa de Fausto, mais c'est l'auteur de La Vérité si je mens.
Absolument.
Tout à fait.
Voilà. Un joli scénario qui a d'ailleurs accouché du plus grand bluffeur de l'histoire du cinéma, Serge Benhamou.
Très fort.
Tu parlais, Fausto, de belles histoires françaises qui nous manquent, mais est-ce qu'il y en a pour les autres pays? Est-ce que tu as vu des belles histoires?
C'est justement assez frustrant d'ailleurs, parce que nous, on se fait toujours la guerre avec nos amis couvreurs espagnols, etc. Nous, on vient à 200, on est en place un par semaine en table finale. Eux, ils viennent à 12, ils font table finale tous les jours et ils ont failli prendre leur 3e bracelet là hier encore. Donc, y a, sur les autres nationalités, oui, il y a les Espagnols qui sont très en forme, même si eux, pour le coup, c'est surtout des professionnels. On a eu la jolie histoire du fils HM, donc Joe HM, vainqueur du Main Event de 2005, qui son fils a fait runner-up du tournoi Bomb Pot, là, la nouveauté qu'il y a eu, où toutes les 8 mains, tout le monde, on voit un double board, une fois en main, une fois en hold'em, une petite sauterie un peu originale. Donc là aussi, c'était sympa, même si pour le coup, il a échoué en 2e place. Sinon, il y a le retour en grâce de d'Isildur, quoi, ça aussi c'est assez sympa à suivre, mais on n'a pas eu de one timer avec des histoires particulières pour l'instant. C'est
Igor était venu pour ça, hein.
J'arrive le 27, hein.
Igor était venu pour le one time.
Ouais, j'étais venu pour créer l'histoire et
ça aurait été énorme quand même que Igor remporte un bracelet.
Pourquoi ça aurait été énorme?
Ça va finir par arriver. Attention, c'était mes premiers WSOP. Tranquillement, on va s'y mettre.
Comment t'as vécu le truc? Parce que la première fois qu'on arrive à Vegas pour les WSOP.
Alors moi, j'avais déjà été à Vegas pendant les WSOP, mais à l'époque j'étais trop jeune et je n'avais pas les moyens de payer les entrées. Mais du coup, là, c'était la première fois que j'ai fait effectivement des tournois.
Et le premier sentiment quand tu t'es assis à table, moi, la première fois que je me suis assis à table des WSOP,
la salle,
j'étais liquide. Ils ont mis un saut en dessous de la chaise.
Je sais pas, moi j'étais assez détendu déjà parce que j'avais rien à perdre. Je me suis dit, je viens, de toute façon, j'ai.
Ouais, moi aussi, je m'étais dit ça, mais ça n'a pas marché.
J'ai 15% de chance d'être dans l'ITM, dans l'argent.
Ouais, moi je m'étais dit ça aussi, mais ça n'a pas marché.
0,5% de chance de faire un résultat un peu correct, donc je suis venu très détente. Non, j'aimerais bien y retourner un peu plus préparé en ayant bossé un peu mon jeu.
Combien de temps t'es resté?
Je suis resté une semaine.
Ah, c'est et t'aimerais y rester un petit peu plus, justement
pour ouais, j'y retournerai bien l'année prochaine pour essayer de en tout cas, peut-être de m'être préparé un peu plus, d'avoir plus spoté les tournois que j'ai envie de faire. Ouais. Là, j'ai fait un Six Max où moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué en Six Max sur Internet, donc j'ai l'impression que c'est là où je suis plus performant.
Joueur à gros.
Donc, du coup, voilà, quoi. En plus, il a le look Scandi quand même. Hein. Le look Scandi là, hein. Là, j'ai fait les. J'ai moi, si je ne le connais pas, je te vois assis, je dis lui, je vais me méfier.
Alors, pour qu'il est complètement le look Scandi, alors déjà, il a le sweat capuche, il met la capuche.
Et puis, tous les Scandi mettent
des lunettes de soleil au clé.
Ah ouais, non, mais là, c'est.
Voilà.
Ah ouais.
Et là, on sera. Là, je pense, il se met à table, déjà, la moitié des gens à table flippent.
Cela dit, je porte aujourd'hui un petit foulard et je me demande si c'est pas un bon truc de poker de cacher ta jugulaire. De
c'est
cacher.
Ah ouais, c'est
parce qu'en réalité,
c'est un grand
on voit que les pros la regardent beaucoup.
Fausto, merci beaucoup pour
merci,
ce
Loulou.
Petit aperçu de la semaine à Vegas. Et tu reviens quand tu veux dans le RMC Poker Show.
Merci, merci à vous les gars, à jeudi, merci Loulou. De m'avoir appelé et quand vous voulez.
Ben oui.
Merci. Il est parti
quand vous voulez. Oui,
oui.
Le
non, mais, voilà, j'ai pas
appel en PCV, on a vite coupé.
Oui, je vois ça. T'as coupé immédiatement. Oui, une semaine à Vegas, oui.
C'est pas suffisant. C'est non, pas suffisant. Mais bon, ça déglingue. Je tourne une nouvelle série, là.
Ah, oui,
à partir du 15 juillet.
T'as donc, un métier
vraiment,
à côté.
Je suis parti au. Voilà.
C'est quoi ta nouvelle série?
C'est une nouvelle série qui s'appelle. Qui a pas vraiment de nom pour le moment. C'est sur des lycéens qui gagnent à l'Euromillion.
Oh, génial. Bon, génial.
Voilà.
Je pourrais le montrer
toujours avec
à
mes porte.
Ados ou il y a encore des
ah ben là c'est les rôles principaux sont des lycéens donc ce sera aussi fait pour eux.
Et peut-être Pierre Ninet en professeur non.
Je ne dévoile pas rien.
Ah oui c'est normal.
Attends,
c'est normal.
Déjà je vous ai dit
ça. C'est une plateforme.
Quoi?
On dit pas non plus Netflix.
Je vous dis rien du tout. Ça y est.
D'accord.
Ça y est. J'en ai trop dit.
Moi je pense que c'est sur Netflix à mon avis c'est sur Netflix.
Non mais voilà.
Et sur le poker Walou.
Il a dit, il va réfléchir. Déjà, il va aller se procurer les deux livres que je lui ai conseillé.
Non,
déjà.
Sur le poker, j'ai très envie. Ça fait longtemps. Moi, mon associé était aussi au tout début de sa vie joueur pro, parce qu'il lui venait de StarCraft, Warcraft.
Ah oui.
Mon associé s'appelle Jérôme Sandron et il a été à l'époque sponsorisé par un site suédois justement qui s'appelait Cardoza Game.
Oui.
Voilà. Et donc du coup, j'ai fait mes premiers WSOP avec lui où lui était sponsor. Il m'a stacké en cash game et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment jouer.
Ça fait longtemps donc que tu joues.
Putain. Ouais, moi j'étais croupier au Cercle Wagram.
Au Cercle Wagram, mon Dieu, putain, il y a jadis.
Ouais, jadis en 2007.
Putain, le livre, tu fais de croupier à Real.
Dans les joueurs de poker, je pense que tu trouves toutes les professions.
Mais de toute façon, c'est la grande. Oui,
on vient de partout quand on fait une table, réalisateur.
La grande richesse de ce sport, c'est. Tu ne te retrouves jamais à une table avec des gens que tu ne connais pas pendant aussi longtemps, sauf à une table de poker.
Bien sûr.
Et les ambiances, quand tu vas à Vegas, où tu te poses à une table, il y a un mec avec un chapeau de cow-boy, un autre gars qui est un mec de 20 ans.
Une grand-mère avec son chat, tu sais, moi j'ai
voilà, tu vois vraiment tu rencontres des gens que tu ne rencontrerais jamais autrement.
Ça reste toujours, même si ça peut faire cliché de le dire, mais ça reste toujours très cinématographique, Las Vegas.
Ah non,
parce que tu y vois, les histoires que tu entends, les gens que tu croises, c'est toujours assez fascinant.
Je trouve qu'il n'y a pas meilleur histoire.
Ouais, en fait, mais c'est aussi ça, on en parlait tout à l'heure, de faire des superstars du poker qui auraient des grosses équipes derrière elles, etc. Ça casserait aussi possiblement un des trucs du poker qui est de dire, ça peut m'arriver à moi, et on le voit chaque année, tu peux être un joueur amateur et tout d'un coup, avoir assez de chance, prendre des décisions plus ou moins bonnes, mais que ça tourne en ta faveur, et à la fin, avoir un bracelet. Mais c'est peut-être ça qui dévalorise aussi. C'est-à-dire de dire, t'as un bracelet de champion du monde, t'es champion du monde de poker, mais en fait, t'es beaucoup moins fort qu'un autre, et c'est juste que là, t'as eu de la chance, et que du coup, le facteur chance dans le poker, c'est aussi ça qui fait que c'est d'un côté passionnant, et tu peux t'identifier, tu peux dire, ça peut m'arriver à moi, et aussi te dire, il y a plein de gens qui n'y croient pas. Ils disent, c'est quoi un pro? Mais comment ça, il est meilleur, en fait?
Ouais.
Ils confondent le poker, la roulette, ils comprennent rien.
Ouais, il y a aussi le facteur décision aussi qui est important. Parce que
je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que.
Il y a de la chance, effectivement. Oui. Quand tout part, bah après, tu contrôles plus rien, mais il y a la décision et la décision est très importante.
Igor, c'est le moment de savoir.
Ah ouais,
c'est
bon.
Voir en direct ton niveau.
Ah ouais.
On va jouer dans un instant.
Ah, c'est exceptionnel.
À tout de suite.
Jusqu'à une heure, c'est RMC Poker Show.
Daniel Riolo et Mindy.
La troisième partie du RMC Poker Show, c'est le moment de jouer tous ensemble. Salut Jérémy.
Salut Patrick. Salut les amis, bonsoir à tous.
Ça va?
Ça faisait failleux.
Tu nous as préparé une belle main. Et franchement, après la main qu'on a subie la semaine dernière entre Yo et Galliana, tu l'as vu cette main, Igor? Elle est incroyable. Franchement,
c'était fou.
C'était assez incroyable. Donc, tu vas pas trouver mieux que ça?
Non, on va essayer. Hein.
Mais tu vas quand même nous faire rêver un peu.
Oui, bien sûr.
Allez, dans la tête d'un fiche, let's go.
RMC Poker Show. Dans la tête d'un fiche.
Bon, il y a quand même du joueur expérimenté à cette table. On n'est pas non plus dans le chiffre, dans le fiche, pardon,
première
catégorie. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours moi à cette table.
Arrête, faut bien Daniel.
Le dire. Ah si, là, l'autre il revient de Vegas, il est chaud comme une bouillotte. Arnaud, on parle pas de son expérience.
Attends, et l'autre il joue les
épaules. Non, Daniel, tu sais que t'as un end on mob plus fourni que celui-là.
Exactement.
Mais non.
Ah oui.
Oh, c'est toi le fiche.
Ah oui.
Je peux le mépriser ou pas?
Grand plaisir.
Oh, le tain, Igor là. Eh, c'est lui qui parle en premier.
Si t'as l'image du fiche à table, t'as déjà bien parti.
Exactement.
Bon, alors donc on est bien d'accord, c'est lui qui parlera en premier. Alors.
Okay. Ah bah oui, c'est invité.
C'est toujours le plus gros fiche qui parle en premier.
On file à Las Vegas, petit tournoi sans prétention des WSOP, ça va plaire à Arnaud. 100 000 dollars de buy-in.
Ah ouais,
oui,
okay.
Voilà.
Il vient d'avoir lieu très récemment, c'est le High Roller. 112 joueurs au départ, on n'est plus que 40, c'est le day 2. On n'est pas encore dans les places payées.
Arnaud, encore.
On n'est pas encore dans les places payées. 8 joueurs à table, on a un tapis de 9 millions, au blind 125 000, 250 000. Qui doit faire entre 36 blindes.
Ouais.
Il y a eu une relance du joueur UTG, qui est chip leader à la table. Il a relancé à 500 000. Il a
tout faire de tête comme ça.
Ah ouais. Regarde Daniel, tu vois, Daniel, il a une petite feuille.
Daniel, tu vois, il a une petite feuille.
Il a une petite feuille. Tu veux une feuille?
C'est l'eau,
la tête.
Tiens, Igor.
Tiens,
Igor.
Tiens,
Igor.
Tiens, Igor.
Oui, pas la feuille, c'est la
petite
feuille. Et le stylo.
Et le stylo.
C'est bon, j'ai un edge. C'est bon, j'ai un edge. Je vais dire Igor.
Donc l'UTG envoie 500K.
500K, relance du joueur UTG. Qui est chip leader à la table. Tout le monde se couche et nous on est de grosses blindes.
Ouais.
Et on ouvre roi valet de carreau. Igor, je t'écoute. Qu'est-ce que tu fais avec cette relance UTG?
Roi valet suité.
Roi valet suité.
À carreau. Hein, c'est pas
à carreau.
À carreau. Ouais, à carreau. J'aime beaucoup.
Est-ce que tu lui reviens dessus? Est-ce que tu payes juste, sachant qu'il est chip leader?
Ah, il est l'UTG est chip leader.
L'UTG est chip leader.
Moi, j'ai l'impression que c'est une main qui se joue bien post flop. J'ai envie d'aller payer voir un flop vu que je suis hors de position. Je vais pas la jouer très aggro là-dessus. Donc je vais coller tranquillement.
C'est un call chez Igor.
Donc on fait en fonction des end on mob.
Oui, donc, bah donc Daniel. Après ce sera Moundir.
Je fais la même chose, je call.
C'est un call.
Moundir. Ouais, 36 blindes d'effectifs. Quand un chip leader sur un 100K ouvre UTG, ça sent un peu quand même le roussi parce qu'à ce moment-là, on joue pas aggro. C'est, en plus, ça joue pas mal serré parfois. Ça défend surtout sur des suités. En temps normal, moi, je l'aurais joué 3 bêtes, mais là, sur un 100K, j'ai 36 mains d'effectifs. Je just call.
Just call.
Donc, pour le moment, personne n'a été fiché. On est
ah non, mais
on va voir. Et pour Arnaud Perrol, qui a un end on mob à plus de 750 000 dollars, voilà. Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, moi, en fait, jamais je 3 bêtes, je call.
Ouais.
Il n'y a aucun cas où on lui revient dessus.
Je connais Arnaud, comment il joue.
Chip leader, il ouvre UTG.
UTG à 100K.
De toute façon, il doit être équipé. Quoi.
Mais peu importe si c'est un 100K ou un 500, c'est pareil. C'est la même chose.
T'as 250 euros du circus, t'as UTG qui ouvre, t'as un roi valet de carreau, c'est une belle main pour just call et voilà, aller voir le flop, évidemment.
C'est parti, c'est ce qu'on a fait. On a call, belle décision. Le pot fait 1,4 million. Le flop vient as de trèfle, valet de trèfle, roi de cœur. On a deux paires. Tu veux les noter quand même, Igor? Note le flop. Valet de trèfle, roi de cœur.
Alors moi, je vais vous dire,
deux paires.
Même si c'est pas moi qui parle en premier, je vais juste vous donner mon état d'esprit.
Ouais.
Je suis pas. Alors deux évidemment, sauts. C'est génial d'avoir deux paires, deux mais sauts. Je suis pas en transe parce que le mec qui ouvre UTG à ce moment-là, il peut avoir As-Roi, il peut avoir As-Valet, il peut. Donc je reste très calme. Je redescends en pression immédiatement et je laisse Igor parler. Non, bah d'abord, il a fait. Ah oui, c'est à nous de parler en premier.
C'est à nous de parler en premier.
Igor,
hors de position.
Moi, j'ai tendance à croire qu'il a agressé pré-flop. En tout cas, il est relanceur. Il va probablement bouger en C-bet.
Tu vas le laisser faire.
Je vais le laisser faire. je vais prendre mon petit temps, regarder ce flop, je vais le checker.
Tu vas te gratter la tête, emmerder.
Non, parce qu'en en fait, en réalité, effectivement, je suis content d'avoir trouvé ça. Mais bon, s'il a ouvert, il peut avoir As-Valet, As-Roi, il peut avoir deux rois, deux valets. Je suis peut-être au bois, je suis peut-être déjà très très loin. Mais bon, on est déjà content d'avoir trouvé quelque chose.
Check chez Igor.
Dommage qu'on n'ait pas un petit backdoor carreau.
Ah, il veut tout.
Pas mal de paires quand même déjà.
Daniel, oui, mais bon,
je perds s'il a déjà Roland, je suis mort. Alors
je sais exactement. Je l'ai dit, je m'emballe pas du tout. Je reste très calme. Je fais la même chose.
Check chez Igor, check chez Daniel. Alors,
ça dépend lequel Roland, mais il peut y avoir que Brolandas là-dessus. S'il a Roland droit, ça me paraît compliqué.
Il peut
Brolandas Valet, mais il peut tout avoir. Il peut avoir paire de 10, paire de 9. Là, à ce moment-là, non, effectivement, le check, il est bien évidemment recommandé.
Arnaud.
Ouais, alors en fait, je suis d'accord et puis je me dis quand même, qu'est-ce qu'on peut battre comme main et alors après, parce que moi je joue vraiment comme un amateur, c'est-à-dire que les pros ils vont chercher à développer le jeu, etc., optimiser. Moi c'est pas mon cas dans certaines circonstances. C'est vrai que t'as quand même deux paires flopées que tu vas être battu par évidemment tous les as-rois, as-valets, enfin tout ce que tu veux, mais que tu bats aussi beaucoup de mains et qu'après tout, si tu peux arrêter le coup et pas laisser rentrer la couleur.
Quelle main on bat, Arnaud, justement, on bat le as-dame. Qui a néanmoins un tirage, on bat la paire de 10 comme a dit Moundir, ouais. Éventuellement
toutes les paires en dessous,
les paires en dessous qui ont ouvert
tous les as en dessous suite
tous les as, enfin un as 10, un truc comme ça
suite que il aura joué en tant que chip leader. Donc il y a aussi un moment où tu peux dire bah OK, je mise parce que d'abord j'ai quand même deux paires flopées et
le roi dame aussi.
On a dit qu'il était chip leader, on a dit à quel point ou pas.
Il est chip leader, il a 20 millions de jetons.
Ah ok, donc il a un peu plus de deux fois plus que nous.
Exactement.
Pas non plus.
Donc on a check, il a ses bêtes.
On a check, il a ses bêtes. 375 000 dans un pot qui fait 1,4 million. Qu'est-ce qu'on fait? C'est logique.
Mais le problème, c'est que ce genre de main, on risque d'aller loin quand même, parce qu'évidemment qu'on va pas jeter deux paires pour l'instant.
Igor.
C'est une vraie bonne question.
Est-ce que tu peux lui revenir dessus d'ailleurs?
Moi, je pense que je vais pas. Encore une fois, je vais pas m'emballer. Je vais pas vouloir jouer un immense pot là-dessus. Et pourquoi le perdre si je suis devant? Parce que j'ai quand même des chances de l'être. Donc, je vais prendre mon temps. Je vais coller. Peut-être lui faire croire aussi un tirage trèfle, une couleur, voir. Voilà. Donc, je vais coller.
Il y a deux trèfles au board.
Ouais.
Check chez Igor. Daniel.
Pareil.
Check.
Là, il bet un tiers, c'est le bet classique. Bet classique chez les trucs. À ce moment-là, moi, j'aimerais bien investir pratiquement 5 blindes. Je le relance. Donc, je le 3 bet. Juste pour poser une question. Derrière, je sais qu'il me reste 30 blindes. Donc, je suis ultra deep. Donc, encore.
Et au moins, tu auras l'information.
Et au moins, j'aurai l'information de savoir si just call. Mmh. Donc, c'est soit il a son as.
Ouais, mais est-ce que le problème, c'est que. Oui, voilà, je comprends ta démarche. Mais on est bien d'accord que. Puisque tu dis poser une question, imagine qu'il a. As 10, As 9 ou As Dame, il va te payer quoi qu'il en soit.
Ouais, et c'est ça qui est intéressant.
Mais, et quelle réponse t'auras en fait?
C'est ça le problème, c'est que s'il a un petit As, il va te payer, et s'il est max, il va te payer aussi.
Ouais.
Il y a deux trucs. Il bête un tiers, donc il peut avoir paire de 9, paire de 10 ou les dames.
Oui, il fait son
sable
classique.
Il fait son sable classique, à savoir si moi, effectivement, en défense de blinde, j'ai mon As. Moi, l'intérêt, c'est soit je subis le coup. D'accord. Et je bête parce que si je colle son un tiers, je sais que derrière il va mettre trois tiers ou deux tiers. Ça, en plus c'est que des pros, donc à mon avis il mettra deux tiers sur la turn.
Ouais, trois tiers c'est pas possible.
Mais deux tiers. Donc pour le coup, ou pote, c'est déjà arrivé. Donc je préfère quand même poser la question et puis sur un 100K à 40 left, si je 3 bête, c'est pas parce que j'ai rien. Donc je lui dis que j'ai quelque chose.
Okay. Arnaud,
moi je reviens dessus.
Voilà. Ouais, pareil.
Je reviens dessus, mais pas trop pour lui poser la question, pour arrêter le coup, parce que. À part faire rentrer des couleurs, des quintes qui vont pas m'arranger, nécessairement.
Parce que le 10, il nous baise.
Il sait que de toute façon, j'ai pas As-Roi, sinon j'y serais revenu le pré-flop. Par contre, je peux avoir As-Valet. Et quoi qu'il en soit, je pense que ça vaut la peine de
tenter que ça s'arrête.
Exactement.
Ouais, je suis d'accord. J'aime bien cette option. J'aime bien cette option.
C'est pas ce qu'on a fait. Nous, on s'est contenté de juste payer. Le pot fait 2 millions. Turn 6 de trèfle.
Magnifique.
Troisième trèfle sur le board. Igor, qu'est-ce qu'on fait?
Bah là, moi, je pense que c'est un bon spot pour un petit check raise, tu vois.
Ok.
Donc moi, je vais checker sur ce trèfle et je vais voir s'il continue à ses bêtes.
Pour lui revenir dessus après.
Et là, je vais poser la question de genre, est-ce que t'es vraiment solide ou est-ce que t'es un peu solide?
Moi, je pars dans la même idée.
Ok.
Je check. Ce qu'il fera, il est possible que j'aille lui poser une question supplémentaire.
Non, non, pour moi, le 6, c'est une carte exceptionnelle. À moins qu'il ait As-6, Roi-6, Valet-6 suité, que des suités. Il a très peu de 6 dans sa range de main. Là, je mets deux tiers.
Mais tout de suite ou en check raise? Non.
Je bête de suite.
Lui, il avait repris. Parce que E2 avait repris une option.
Le 6, pour moi, c'est une belle carte. Moi, j'ai pas envie de voir de 10, j'ai pas envie de voir de dame. Ouais. J'ai pas envie de voir la doublette de l'as.
Là, tu peux le check raise et arrêter le coup, tu vois.
Non, parce que si je check, pas sur un 100K et face à un pro.
Ouais.
Ok, ok.
Jusqu'à Harmony.
Moi, ah, sans casse, bah, du coup, pas grand chose. Donc... Oh. Donc, le jeu très détente.
Donc, dans la logique, on a laissé se développer le jeu. Les trèfles rentrent. À un moment donné, moi, je peux décider que je vais laisser bluffer la couleur en espérant qu'il l'ait pas et payer avec mes deux paires qui sont quand même, c'est très fort quand même de paires roi valet dans un board comme celui-là. Il y a mieux, mais il y a beaucoup, beaucoup moins partout.
Ok. Nous, on a check et lui a continué son action. Plus cher cette fois-ci, 1,6 million dans 2 millions. Là, ça fait un check raise qui est assez cher, si tu voulais le faire. Mais c'est ce que tu fais, du coup, Igor.
Ah là, d'un coup, oui, je m'attendais pas à dire.
1,6, tu vois, il fait pas 500 000, il fait ouais. 1,6 dans 2 millions.
Moi, si il fait 1,6, moi, j'ai investi combien, là? 500, j'ai payé une fois, 900.
Il doit te rester 7,5 millions.
Ouais, il a moins 30 blindes. Ouais, faut pas faire. Est-ce que je joue le gars qui est très fort et je lui fais une relance à 4-5?
Donc tu go broke 4, alors.
Là je go broke en disant
en
que
5
je pense que je suis encore devant. Et si je lui fais ça et qu'il croit à la couleur, il peut passer possiblement
okay.
De paire max.
Ouais, bien sûr. Daniel.
Je pense qu'il ne followera pas les fameuses deux paires max si éventuellement il les a. Et je reviens sur ce que je disais juste avant. Je crois que je ne fais pas la question. Je pense que je vais essayer d'aller au bout petitement derrière lui, call. Le suivant, et je vais call.
Bon dire.
Oui, de toute façon, moi, c'était bien évidemment un call, quoi qu'il arrive.
De toute façon, avec deux paires comme ça dans cette
moi,
histoire.
Moi, le 6, pour moi, il est exceptionnel.
Je
ne
vois pas
moi,
comment on va jeter. Quoi. Donc,
Arnaud ouais.
Bah en fait, je suis d'accord. Comme l'idée, c'est de pas savoir comment on va jeter. Alors toujours pareil. Après, c'est tellement facile de prendre les décisions là.
Mais oui.
À part passer pour un con par tous les pros qui m'écoutent.
Non, mais y a pas de souci. Les pros, c'est bon. Hein.
Mais.
Moi, je go broke
là. Avec. En fait, le problème, c'est que le pot, il est en train de monter. Et que à la river, on va probablement devoir peut-être payer un tapis. Donc pareil, j'aurais plutôt tendance à être le plus aggro possible à ce stade-là.
Comme
et moi, je fais tapis.
Ah, tu fais tapis, ok,
ouais.
D'accord.
Ouais, Arnaud, il est avec WAM.
Ok, ouais, nous on a juste payé, le pot fait 5,5 millions, river brick, 2 de pique.
Quel exceptionnel.
Dernier check chez nous, là je suppose, le pot est tellement énorme.
Je vais au bout de l'histoire.
Ça va être un check call.
J'irai au bout de l'histoire en check call.
Ah là, oui, si j'avais pas fait tapis à la turn, oui, je check call.
Check, on est tous d'accord.
Ouais. Attends, je vais checker.
Ouais. Et lui fait pote, 5,5 millions.
On colle tous.
On a 6,8 millions.
C'est parti.
On colle tous, mais je sais pas.
Je
toi, tu colles.
Je
Igor. C'est un 5-4, tu joues tout le temps.
Donc, lui, on va squeezer mon. Donc, moi, ah oui, c'est oui. Ça le jeu. C'est que moi, si j'ai pas fait ce qui a été fait.
Reviens sur ce qui a été fait là.
Ok, d'accord. Ben, c'est très dur. C'est une grosse décision. C'est mon tournoi qui en dépend.
Oublie les 100 000.
Tournoi à 100K.
Oublie les 100 000.
C'est un tournoi à 100K, c'est énorme. C'est-à-dire...
C'est énorme. Je te dis,
après, je ne connais pas ce joueur. Est-ce que c'est un pro qui a agressé tout le monde tout le long? Je l'ai vu déjà.
À 100K, c'est pas le boulanger du coin.
Non, je sais, mais ce que je veux dire, est-ce que je l'ai vu déjà être payé et muck tout de suite?
Très très bon Scandinave.
Est-ce que je l'ai déjà vu
C'est un très très bon Scandinave, ouais. C'est encore plus.
C'est là où, le poker, ça devient très irrationnel.
Il
c'est
en pense
que
pas ton frère.
S'il a deux As, il peut jouer le coup comme ça, bien et sûr. S'il a Zboub, il peut jouer aussi comme ça. Donc c'est là où.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'il trois barrels, all-in, d'accord. Et c'est surtout que on a call.
Pas all-in, quasiment.
C'est payé. On y va.
Mais bon, écoute, 5 millions, je pense, je colle. Je colle parce qu'en temps normal, s'il est max, il envoie tout.
Arnaud, Igor, t'as pas vraiment pris de décision.
Igor.
Je suis pas du mec. Évidemment qu'il va payer.
Moi, c'est là où c'est difficile, c'est que moi, j'avais pris l'initiative à la turn, et là, vous me l'avez squeezé. Donc moi, je me dis, l'argent, je l'ai investi à la turn, donc je vais payer à river.
Voilà.
Mais, dans les faits, si ça se passait vraiment comme ça, je sais pas si j'ai les couilles de payer.
Pardon.
Bah, en fait, là, je me demande si je bats autre chose qu'un bluff. Et donc, avec quelle main il a pu, faire pot que je bats avec mon roi valet. Qui lui donne envie de faire ça.
Moi, je dis qu'il a. Moi, je suis sur le As-Dame depuis le début.
As-Dame, As-10, on le
gode. Ce que je me dis, c'est que. Mais ouais, je paye.
Ça.
Oui,
As-Dame, As-10 depuis le début.
Nous, on a fini par fold. En face, il y avait Victor Blom qui avait As-Valet. des pariés de paires.
Tu vois, ouais.
Bon, voilà. Même Good pas fun. À 3 à 1, ce valet. Ouais.
Good fun. Je suis un peu deg parce non, que voilà. Je l'ai dit que.
Tu viens de perdre 100K. Ouais. 10 mètres carrés à Paris.
Et tu sais quoi
c'est j'ai peut-être... pas tout perdu. J'ai encore 4 millions derrière. Et 1 mètre carré à Monaco.
C'est peut-être pour ça qu'on joue pas des 100K d'ailleurs.
Non, voilà. Mais depuis le début, on avait dit qu'effectivement, le
As. Tu l'as dit tout de suite.
Le As roi, le As valet était.
La relance du piégé.
Mais depuis le début, je sentais qu'on était enferré dans un coup comme ça et qu'avec roi valet, c'est dur de fold.
Et 3 barrels, il ment pas. Donc mon 3-bet était bon quand je 3-bet qui me colle, je dis bon, ok, de toute façon.
Et t'aurais lâché après ?
Ouais, je pense que je lâche après. Ouais. Je lâche après. Je lâche après. Est-ce que ça ment pas là-bas ? Ça ment pas. Les tritons, ça ment pas. Truc, ça ment
Igor
pas.
Gottesman, merci beaucoup.
Bah, je suis un peu deg, mais bon. En même temps, il m'a poussé un peu. Vas-y, tu colles.
En 10 minutes, on a perdu 500 000 euros.
500 000 euros, les gars. Je fold à la river. Évidemment, vous l'aviez tous senti que j'avais envie de folder.
Tu fais dans l'argent.
Les amis, la semaine prochaine, vous serez à Vegas.
Ouais.
Non, pas toi.
Non, la semaine prochaine, on n'est pas encore à Vegas. Lui, il sera. Moi,
j'y suis, les gars. Tu seras depuis Vegas pour être avec nous.
Au Call Business Center pour vous recevoir.
Très bien. Bonne semaine à tous. Ciao.
Ciao.
RMC, mes cartes sur table.
C'est le RMC Poker Show. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.